Un cinquième édition avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs, nous sommes vendredi 12 mai, il fait beau. Ajouter le qualificatif que vous pensez à cet endroit-là. J'ai même mis des capris. Ça nous a pris 5 minutes pour le trouver. Le nom de l'affaire. J'ai mis mes capris ce matin pour venir au studio. Et je suis accompagné de Francine Forget. Bonjour Francine.
Bonjour Yvan, qui est venu en jupe cargo. Donc, vraiment, on est rendu à l'été, là, nous. Hein? Oui. Je pense qu'on est un peu d'avance, mais c'est pas grave. Même... Parce que ce week-end, on annonce beau, peut-être un peu plus frais qu'aujourd'hui. Il faut dire qu'hier, il a fait chaud. Très chaud, même en après-midi, en fin d'après-midi. Et on annonce la même chose pour aujourd'hui. Mais c'est soleil, soleil, soleil. Oh, soleil, soleil.
Et Mathieu Tessier?
C'est exact.
Vous êtes d'accord que j'ai des capris ou qu'elle a une jupe cargo?
Oui.
Oui, c'est ça. Et vous, vous êtes venu... C'était une journée fantastique pour venir à pied, à cheval, en Cadillac.
Je suis venu en jeans.
C'est ça, j'allais dire, habillé comment? Continuons sur le même thème.
Voilà, moi, je respecte le thème des animateurs et animatrices. Ouais. Non, moi, je suis venu en moteur.
Vous êtes venu en moteur.
Scooter.
D'accord.
Parce que je n'arrête pas d'avoir des crevaisons sur mes pneus. Ça fait 2 crevaisons en une semaine que je fais.
Sur vos pneus de vélo?
Oui, exact. Oh. Alors, voilà. Oh. C'est tout.
Merci. À quoi c'est dû, Mathieu? Est-ce que les pistes cyclables sont moins bien entretenues?
Je ne prends pas beaucoup de pistes cyclables. J'ai l'impression que c'est... J'ai aucune idée, en fait. C'est peut-être la ruelle que je prends en arrivant près de chez moi. Mais voilà, j'ai des crevaisons. C'est des petits cailloux.
Intéressant. Bon. Je vais faire un lien tantôt avec ça.
Et pourtant, ma pression de pneu est bonne, je ne sais pas.
Et votre pression artérielle?
Très bonne aussi. À vous le micro.
Ça, c'est votre suspense de la journée, le petit caillou. Vous allez revenir sur le petit caillou, c'est ça?
Non, sur les crevaisons.
Sur les crevaisons. Oh, oui. Gros thème ce matin.
Oui, on se lâche lousse.
On se lâche lousse.
Et vous,
donc,
Francine, qu'est-ce qui a retenu votre attention
cette semaine? Ce qui a retenu mon attention, c'est l'entreprise de Mme Linda Blouin, cette ex-enseignante au secondaire qui, en 2014, a fondé les Fées marraines. Les Fées marraines, vous connaissez ça, Yvan, c'est l'entreprise qui a décidé de... En fait, je devrais dire un organisme, là, parce qu'il n'y a vraiment pas de profit qui se fait là. C'est l'organisme qui a décidé que toutes les filles avaient le droit d'être belle et de se sentir belle à leur bal de finissant secondaire 5.
Oui, oui, oui.
C'est ça, quelle que soit leur situation financière. Mais voilà, depuis 2022, donc pour la deuxième année, elle habille les garçons. L'an dernier, elle a habillé 400 filles. Et ce matin, cette année, on prévoit que 130 garçons vont être vêtus d'un très beau complet pour que cette journée-là soit une fête. Et il faut se rappeler que l'objectif, justement, de cet organisme, c'est qu'aucun jeune ne soit privé de fête pour cause de budget serré.
Mm-hmm.
Et au début, quand on a créé ça, il y en a certains qui avaient un petit sourire en coin. C'était un peu superficiel et tout ça. Mais on a vu pendant la pandémie comment c'était important, le bal des finissants pour nos finissants du secondaire maintenant.
D'ailleurs, je ne me souviens pas du mien. Enfin.
Ben nous, en tout cas, on avait un peu relégué ça aux oubliettes et on contestait même cela. Yvan, de votre côté.
Oui, je viens d'en rajouter un à cause de votre fait saillant. Moi, cette semaine, j'ai passé, à vélo. C'était peut-être le lien pour les crevaisons, mais non, pas vraiment. Puis je suis passé au parc Maisonneuve, c'était sur mon chemin, et c'était une journée événement pour Filles Actives. Filles Actives, c'est un organisme dans les écoles secondaires du Québec qui met l'accent sur l'activité physique pour les filles. Il semblerait qu'il y a 1 fille sur 10 qui fait le nombre de minutes requis pour être en bonne forme physique. Alors, Filles Actives a été créée pour permettre aux jeunes filles de faire de l'activité physique entre elles. Et Donc, pas de comparaison avec les garçons, pas de compétition, etc. Et au parc Maisonneuve, c'était, il y avait de la course, il y avait de la planche à roulettes, il y avait toutes sortes de trucs entre filles. Ça avait l'air vraiment, vraiment intéressant. Et juste rapidement, pour faire mon lien, parce que je l'ai dit tantôt, j'ai fini de lire le livre de Jonathan Biroy, le tome 2 de Histoire à coucher debout. À coucher dehors, c'est ça. Histoire à coucher dehors. Et il nous parle de son voyage à vélo, évidemment, en Asie et en Amérique du Sud. Le voyage a arrêté à cause de la COVID. Tu arrives à une page, puis il dit « Ah, je pensais pas que ça allait être ma dernière photo », puis il est obligé de partir à cause de la COVID.
Et ça finit comme ça.
Et ça finit comme ça, effectivement. Et il nous parle des nombreuses crevaisons qu'il y a eues pendant son parcours. Alors, c'était ça le lien que je voulais faire. À l'émission d'aujourd'hui.
À l'émission d'aujourd'hui, Marcel Dugas nous amène à Paris, au cimetière du Père Lachaise. Bien hâte de voir... De découvrir avec lui, en fait, ce cimetière qu'on connaît, mais qu'on redécouvre à chaque fois.
Un sujet très vivant.
Oui, c'est très d'actualité. Du côté de la chronique techno, je vais vous parler... Ah, j'ai fait un petit titre. Je suis sûr que vous l'avez vu, là.
Oui, mais
j'ai pas utilisé le mot. Hein?
Non.
Mais j'ai mis « Est-ce que les robots sont menaçants pour nos artistes? » Très intéressant. Cet article sur lequel je me suis appuyée. Et surtout, je reçois le président fondateur de GDI. GDI, qui est une entreprise de gestion immobilière et de développement d'immobilière, Mathieu Lamarche, dans le segment Au-delà des limites. Et vous, du côté des associations?
Là, vous venez de dire que pour dans le segment Au-delà des limites, on reçoit un responsable de gestion immobilière.
Oui.
Point à la ligne.
Point à la ligne. Voilà.
Puis il s'appelle Lamarche.
Il s'appelle Lamarche, oui.
Oh, OK. OK, on garde le suspense.
Ben là, ça a l'air qu'on crée des suspens. Alors moi, j'embarque, là.
C'est bon, OK.
Par quelle balle je suis.
J'avais pas compris.
Pour reprendre notre thème du début.
C'est ça. Moi, je reçois... on a une nouvelle aujourd'hui, une nouvelle personne dans notre cercle des organismes qui viennent nous parler régulièrement. C'est Céline Ayeri qu'on a reçue il y a 2 semaines à peu près. Hein?
Oui, il y a deux, trois semaines.
Et elle va venir nous parler de ce qui se passe du côté de Autisme sans limite. Puis on a nos chroniques régulières avec nos réguliers qui sont super bons quand même. Quand même. Ouch! Qui sont super bons. Il n'y a pas de quand même là. Et avec Monique Kirois qui va nous parler de l'Estrie. Et vous avez déjà parlé de Marcel Dugas qui va dans sa chronique de Parisienne. Et puis, je pense qu'on serait mieux de mettre une chanson.
Je cours, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours.
Il court, je cours. C'était Félix Diotte et Evelyne Brochu.
Et on passe aux Unes de Montréal avec Francine Forget.
Et tout, là. Oui.
La région métropolitaine de Montréal.
C'est plutôt national, là, dans le sens du Québec. Là. Quand on arrive avec la presse, le Journal de Montréal, puis le Devoir, je ne veux pas vous décevoir, mais disons que on couvre large. D'ailleurs, la manchette de la Presse Plus aujourd'hui, qui fait suite à une manchette d'hier. Hier, le bureau d'enquête de la Presse Plus, en fait sous la plume de Hugo Jonca et Fanny Lévesque, révélait sur le premier écran que le dossier médical de Véronique Cloutier avait été consulté à plusieurs reprises, des consultations que je qualifierais de non essentielles, dans le sens qu'elles n'avaient pas été faites là, dans un but médical, mais dans un autre but. Ce matin, on continue avec une autre manchette. On a eu un haut le cœur et c'est la mère d'un jeune homme qui a mis fin à ses jours, qui a été dégoûtée d'apprendre que le personnel d'un hôpital psychiatrique s'était introduit à de nombreuses reprises dans son dossier médical des mois après sa mort. Une femme aussi dont la sœur s'est suicidée a été atterrée après une découverte semblable. De telles violations de confidentialité sont un phénomène répandu au Québec, montrent les recherches de la Presse Plus. Alors évidemment qu'hier, il y a eu un écho à l'Assemblée nationale et M. Dubé, notre ministre de la Santé, dont l'assiette est très très pleine, là, ça s'est rajouté sur le dessus. Et à la suite des révélations de la presse, il a ordonné au PDG d'établissement de santé de procéder à une vérification des accès illégaux aux dossiers médicaux des patients et de congédier les employés fautifs aux besoins. Monsieur Dubé s'exprime ainsi. « Ce que j'ai dit, c'est donnez-moi l'ampleur de ce qui est arrivé. Et si des PDG doivent prendre des mesures avec certains employés, on va les prendre. » a expliqué jeudi le ministre de la Santé, et ça peut aller jusqu'à un congédiement, a-t-il affirmé en mêlé de presse. Alors ça, c'est la grosse manchette sur laquelle on a continué d'enquêter dans la Presse Plus. Je me tourne maintenant du côté du Journal de Montréal où on parle de cellulaire en classe. Alors, on se rappellera que récemment, il y a eu des événements qui ont fait le tour des médias sociaux. C'est le cas de le dire, donc des enseignants qui ont été filmés au moment où ils débordaient. On peut dire ça comme ça, ils débordaient dans le sens que la colère s'exprimait en classe et ça a été rapporté un peu partout. Et le Journal de Montréal dit « Les enseignants ne veulent plus de cellulaire en classe ». Ils réclament d'autres changements aussi, mais j'ai concentré en fait mon propos sur les cellulaires en classe. Les enseignants qui sont affiliés à la Fédération des syndicats de l'enseignement appuient massivement, à 92% en fait, l'interdiction du cellulaire en classe, sauf dans le cadre d'activités pédagogiques, donc quand l'enseignant l'autorise ou autre professionnel de l'enseignement. Il réclame aussi des changements au bulletin du primaire. Alors c'est en fait l'explication qu'on retrouve dans cette page dont l'auteur est la journaliste Daphné Dion-Vien. Les constats ressortent d'une vaste consultation qui a été réalisée au cours des derniers mois par la Fédération syndicale, qui regroupe 7000 enseignants, et les enseignants, à 92%, comme je l'ai mentionné, ont affirmé que les cellulaires en classe devaient être bannis, excepté si le prof les autorise. C'est la première fois que cette fédération sonde ses membres sur cette question. C'est un enjeu qui refait surface régulièrement parmi les préoccupations des enseignants, indique la présidente de cette fédération, José Scalabrini. Les enseignants sont sur le qui-vive. Ils sont nombreux à craindre d'être filmés à leur insu par des élèves qui pourraient ensuite être tentés de faire circuler ces images sur les réseaux sociaux hors contexte, ajoute-t-elle. Il faut dire qu'en Ontario, il y a une interdiction généralisée du cellulaire par le gouvernement Ford qui est en vigueur depuis 2019. Alors, est-ce que ça ne devrait pas être la même chose au Québec? C'est une question qu'on pose et interrogée à ce sujet, encore une fois, à l'Assemblée nationale. Alors, on retourne beaucoup à l'Assemblée nationale cette semaine. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a indiqué qu'il était ouvert à y réfléchir. Alors, on verra quelle sera la portée de cette réflexion. Mm-hmm. Du côté du devoir, maintenant... on parle de propriétés d'habitation qui sont aux prises avec des vices importants. C'est un peu le Far West dans les licences. Des entrepreneurs, des inspecteurs et des propriétaires d'habitation aux prises avec des vices déplorent le manque d'encadrement dans l'industrie de la construction, nous apprend Zachary Goudreau dans Le Devoir. Il est trop facile de devenir entrepreneur général en construction au Québec, déplorent plusieurs acteurs dans le milieu qui a été consulté par Le Devoir. Ceux-ci estiment également que la surveillance des chantiers et les garanties offertes aux acheteurs qui se retrouvent dans des bâtiments mal construits sont insuffisants. Alors, on cite plusieurs exemples de Boisbriand en passant par Saint-Jérôme et Longueuil, des histoires de bâtiments résidentiels qui ont des vices importants de construction. Et ce sont évidemment des immeubles résidentiels neufs, donc des bâtiments qui viennent parfois inhabitables ou du moins difficiles à assurer. Et ça crée un cauchemar pour de nombreux propriétaires qui voient leur logement construit dans les dernières années se transformer en une boîte de Pandore. Il y a un rapport qui a été publié en décembre dernier dans lequel l'Autorité des marchés financiers s'inquiète de voir que des assureurs ont resserré leurs normes de souscription relativement aux immeubles récents, allant même jusqu'à refuser ce type de risque en raison de la présence de nombreux sinistres dont les causes seraient, selon les assureurs, directement liées à la présence de vices importants là, de construction. Et évidemment, c'est une situation qui cause bien des maux de tête, non seulement aux propriétaires, mais aussi aux syndicats de copropriété, puisque ce sont souvent des copropriétés qui sont visées là-dedans. Et en terminant, une petite nouvelle, moi, en tout cas, qui m'a fait sourire, mais en même temps, je me disais, on n'est jamais trop prudent. Toujours dans Le Devoir, Roxane Léouzon, qui collabore dans le canton de Vaud en Suisse, nous apprend que la Suisse est la reine des bunkers et que chaque habitant du pays a sa place dans un abri anti-atomique. Donc, en Suisse, on a de ces abris qui se cachent sous de nombreux bâtiments. Ça peut être des bâtiments publics, oui, mais aussi des résidences privées pour accueillir toute la population du pays en cas de conflit armé. On est loin de ça ici et on est très prudent en Suisse, n'est-ce pas?
On a élargi Montréal pas mal loin, hein?
Oui, c'est ce que je vous ai dit. Il n'y a pas de limite aux une nationale.
Je vois ça.
Voilà, oui. J'ai terminé.
Et Monique Kerouac, du côté de l'Estrie, est-ce qu'il y a des bunkers en dessous de votre maison?
Non, il n'y en a pas. On n'a même pas de sous-sol, alors c'est pour vous dire.
Monique, vous êtes vraiment pas prête.
Vraiment pas prête.
Vous aimez la vie risquée, vous, hein?
Mais, pardon?
Vous aimez la vie risquée?
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais j'ai des bonnes nouvelles cette semaine.
Bravo.
Alors, je vous parle d'abord de l'historienne Micheline Dumont, qui a reçu lundi la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec. Celle qui a enseigné au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke pendant pas moins de 30 ans est reconnue comme l'une des pionnières du mouvement féministe. En lui décernant sa médaille d'honneur, l'Assemblée nationale a voulu souligner le fait que ses recherches ont mis en lumière l'apport des femmes à la société québécoise et contribué à des prises de conscience donnant aux femmes la place qui leur revient dans l'histoire de la nation.
Est-ce qu'on peut répéter son nom? Ça vaut la peine?
Oui, Micheline Dumont.
Bravo pour Mme Dumont.
Je passe maintenant à... Peut-être que je vais vous apprendre un nouveau mot. Savez-vous ce qu'est une chaussidou? C-H-A-U-C-I-D-O-U.
J'essaie beaucoup, là, mais je ne sais pas.
C'est la forme contractée de chaussée pour les circulations douces.
Ah oui? Ça existe alors, au Québec?
Est-ce que c'est rentré dans le dictionnaire, Robert, en même temps que notre poète Goudreau?
Je ne suis pas certaine. Peut-être que ça viendra. Alors, c'est sur ce type d'aménagement que Bromont a choisi de miser pour améliorer le partage de la route entre les cyclistes et les voitures.
Tout à fait d'accord.
Donc, la municipalité se lance dans un projet pilote d'un an sur le chemin Lotbinière. Une chaussée doux, c'est pas facile à prononcer d'ailleurs, est constituée de marquages au sol, des pointillés de part et d'autre de la route délimitent l'espace disponible pour les cyclistes et même pour les piétons. Les voitures circulent au centre dans une seule voie et se tassent sur les côtés quand elles croisent une voiture allant en direction inverse, en donnant la priorité aux cyclistes et aux piétons. Il faut savoir qu'une étude réalisée aux Pays-Bas révèle que l'utilisation des chaussées doux a permis de réduire de 20 % les accidents graves et de 50 % les accidents aux intersections. Mmh. J'ai très hâte d'aller voir comment se passe la valse
de passage,
entre les voitures.
Culturellement, c'est pas tellement dans nos mœurs.
Pas tellement. Donc, ça va être intéressant à suivre. Mais ça a marché dans les Pays-Bas, donc... À suivre, comme vous dites. Je vous parle maintenant de la ville de Val-des-Sources. Elle a été couronnée gagnante dans la catégorie développement économique, économie circulaire et tourisme pour son projet du quartier Jeffrey lors de la 18e édition du Mérite Ovation municipale de l'Union des municipalités du Québec le 5 mai dernier. Le Mérite Ovation municipale récompense les municipalités qui se sont distinguées par leurs réalisations et leurs efforts pour innover, créer ou développer une activité, un projet ou un programme dans le but d'améliorer la qualité de vie de leur population. Alors, à Val-des-Sources, la mise en place de la place de la traversée et de la halte VR, entre autres, a démontré le potentiel incroyable du site Jeffrey, de même que les nombreux impacts positifs en découlant, soit renforcement du tissu social, mise en valeur de l'achat local et rayonnement de la municipalité. Il faut dire que le quartier Jeffrey est un projet de réappropriation du puits minier par la communauté. Et finalement, je vous parle de petits chiens-chiens. Les chiens de la DPJ de l'Estrie ont participé à près de 300 interventions l'an dernier. Alors, une portion de tous les achats effectués mercredi aux divers restaurants McDonald's de la région permettront d'amasser des fonds pour la fondation du Centre Jeunesse de l'Estrie. Grâce à la fondation, bien, entre autres, Anne-Claude Fortin, qui est travailleuse sociale et spécialiste en activité clinique, a pu devenir la responsable de la chienne d'assistance Bobine, qui a participé à plus de 140 interventions auprès d'enfants et d'employés en 2022. Alors, c'est un chien qui vient aider des enfants pour diminuer leur stress durant les interventions. Sa présence est vraiment apaisante. Elle crée un climat de confiance et de sécurité, de réconfort pour les petits ainsi que pour les adolescents. Alors, merci à Bobine et longue vie.
Oui, oui. Tout à fait. Oui, puis je pense que les enfants qui vivent déjà beaucoup de stress à cause de l'école, s'ils peuvent avoir des moyens pour alléger ça, je pense que c'est bienvenu.
Oui, mais c'est dans les centres de la DPJ. Hein. Je ne sais pas
si
c'est dans les écoles, mais je sais que certaines écoles, ont acquis des chiens qui peuvent aussi calmer un petit peu ces enfants qui ont des troubles d'apprentissage et d'hyperactivité, là. En grand nombre, malheureusement.
Super. Ben merci pour ces belles nouvelles. Et en plus, il fait beau.
Oui, oui, tout à fait. Alors, bonne journée.
Allez profiter du beau temps.
Merci, vous aussi. Au revoir.
Du côté, justement, du soleil à Québec, on apprend que le ministre Jolin Barrette a choisi un de ses amis comme juge. Présenté comme ça, ça a l'air un peu, on hausse les sourcils, mais l'histoire n'est pas si simple que ça. Le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, a recommandé comme juge à la Cour du Québec un ami de longue date dont il a célébré le mariage, a appris le journal Le Soleil. M. Jolin Barrette a confirmé jeudi soir au Soleil que M. Charles-Olivier Gosselin, nommé juge le 3 mai, est bel et bien son ami. D'ailleurs, ni un ni l'autre ne le cache.
C'est ça, ils ne s'en sont pas cachés.
Non, 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 non. Les deux se connaissent depuis l'université et se fréquentent encore une ou deux fois par année, a dit le ministre en entrevue. La candidature du juge Gosselin a été traitée au mérite. Assurer Simon Gélin Barrette, il lui dit « Moi, quand je reçois les candidatures, je fais la sélection en fonction des compétences et des qualités. C'est mon devoir, comme ministre de la Justice, de faire une recommandation au Conseil des ministres. » Là où on peut hausser les sourcils dans cette histoire, c'est que si les sources ne remettent pas en question les sources et les différents acteurs dans ce dossier-là, ne remettent pas en doute les compétences de Charles-Olivier Gosselin. Plusieurs nous ont dit, on parle du soleil, qu'une telle nomination à 36 ans, avec une expérience somme toute limitée de 12 ans de pratique, est plutôt rare. Alors, on soulève cette question du côté de Québec. Du côté d'Ottawa, le droit, il semble bien que si Ryan Reynolds, l'acteur américain bien connu, qui est d'origine canadienne, et pour devenir copropriétaire des sénateurs d'Ottawa, il devra trouver un autre partenaire. On dit « sugar daddy », c'est un petit peu diminue un peu l'aide qu'il pourrait avoir. L'acteur de Deadpool, du film Deadpool, est copropriétaire du club de soccer Wrexham et le Remington Group, auquel il s'était joint pour préparer une offre d'achat qui devait avoisiner le 1 milliard de dollars, quand même, selon les rumeurs, se serait retiré de la course, selon ESPN. Plusieurs sources ont confirmé à la journaliste Emily Kaplan que la proposition de Reynolds et Remington n'ira pas de l'avant. Il avait demandé à la Commission de la Capitale-Nationale des droits sur un terrain, puis ça a été refusé. Alors voilà pour le droit. On prend maintenant quelques minutes et au retour, on va solutionner l'énigme de M. Lamarche qui travaille dans le côté immobilier, mais c'est beaucoup plus que ça. Vous allez le voir. À tantôt.
Vous pouvez rejoindre.
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Yvan Deslauriers et Francine Forget.
Je me sens tout petit, j'ai le mal de vivre. Je veux ton cœur, ton corps, j'ai ton âme en otage. Je suis si beau, si frais, au fond je me hais. Tu es mon eau, ma source de vie. Je veux ton homme, ton roi, je veux que tu me donnes tout de toi. Tu es la reine de mon cœur, différente, tu viens d'ailleurs. Et quand tu pars, c'est un espoir. Mais tu vas où? Mais tu vas où? Ne me laisse pas, ne me quitte pas. Je ne te quitte pas, ne me quitte pas. S'annonce la peine, tu te perds dans tes pleurs. Plus les cris se font tard, plus vite se fait leur quart. Tu pars dans les vapes, je te vois, tu t'évades au loin. Loin dans la brume, aux anges, tu perds tes plumes. Mais tu vas où?
Elle s'appelle Naïmi Franck et elle sera au Festival Santa Teresa ce soir.
Ah oui.
La chanson s'appelle « Tu vas où ».
Et Santa Teresa, c'est à Sainte-Thérèse, évidemment.
Exactement.
Ah, oh, c'est une bonne déduction, ça, Yvan.
Oui, hein, je suis vraiment fort
oui.
ce matin.
Alors, ce matin, quand j'ai présenté les différents segments de émission, vous m'avez trouvé un petit peu sibylline quand j'ai parlé de Mathieu Lamarche.
Sibylline.
Parce que je l'ai présenté comme le président fondateur du groupe GDI, ce qui est tout à fait vrai.
Mm-hmm.
Et je n'ai pas dit qu'il était tétraplégique.
Oui, oui, oui.
Alors, je ne l'ai pas mentionné. Et il y a une bonne raison pour ça, c'est que, en fait, on souhaitait. Bien, ça a un peu rapport, mais vous allez voir la détermination et la pitié ne fait pas partie de la vie de M. Lamarche. Bonjour, Mathieu Lamarche.
Oui, bonjour.
Ça va bien ce matin?
Ça va bien, vous?
Oui, ça va très, très bien. Alors, vous avez entendu là, la petite introduction que j'ai faite en ce qui vous concerne. Et dans une conversation antérieure qu'on a eue, vous et moi, on avait commencé, je dirais, abruptement en parlant de votre vie d'avant, c'est-à-dire avant 2002. Alors, pouvez-vous, on peut-tu en reparler un peu, en fait, de ce qui est arrivé justement en 2002 et qui a changé après le cours de votre vie, évidemment?
Oui, bien sûr. Je pense que le 16 juin 2002, j'étais en moto, puis je roulais avec mes amis, on était deux sur la moto, puis une voiture a fait un U-turn illégal sur le boulevard Labelle et m'a coupé la route. Donc, je suis rentré dans un genre de camion, ce qui a fait en sorte que, bon, je me suis brisé deux vertèbres, la C6 et C7. Donc, je suis devenu tétraplégique là, du jour au lendemain.
C'est ça. Et vous, vous étiez un adepte de moto, hein? C'est un sport que vous pratiquiez.
Oui, de 93 à 96, j'ai fait 3 années de compétition en sécurité. Oh. C'était vraiment là, ce que je voulais faire de ma vie là, à 19 ans. Fait que, après la suite, j'ai arrêté parce qu'en course, en compétition, j'ai eu un accident, puis 3 motos m'ont passé dessus. Fait que c'était pas une année, fait que j'ai essayé d'arrêter la compétition à ce moment-là. Mais l'accident que j'ai eu, c'était vraiment sur la route là, en tant que conducteur.
Alors donc, en 2002, jusque-là, vous étiez un analyste financier. Vous pratiquiez des sports assez extrêmes. Et là, vous réveillez après cet événement-là. Qu'est-ce qui se passe?
C'est sûr que le réveil, c'est un choc. Surtout que, comme j'avais expliqué, j'ai pas de souvenir de l'accident. Moi, c'est comme j'avais cligné des yeux et je me retrouve à l'hôpital. Donc, l'acceptation, c'est dur de réaliser. Bon, après ça, il y a l'opération. Le médecin vient de voir. Il t'annonce que, bon, mais tu ne marcheras plus. C'est ta nouvelle réalité. Parce qu'il y a toute la réadaptation qui a duré environ un an et demi, en fait, à peu près. Réapprendre à manger, la fauteuil roulant, les petites choses banales de la vie, s'habiller, déshabiller, tout ça. Fait que ça change une réalité vraiment du jour au lendemain. Hein. Moi, j'étais analyste financier, j'ai commencé ma maîtrise en France. J'étais on top of the world, comme on dit. Puis là, maintenant, là, ton quotidien, c'est de prendre des petits blocs de bois en agrothérapie et de prendre des petits blocs de bois d'un pot de margarine à un autre pot, puis même faire ça, tu y arrives pas. C'est fait que toute ta perspective sur le monde change du jour au lendemain.
Vous avez été quand même très bien entouré, malgré votre optimisme, si je peux m'exprimer ici.
Oui, ma famille et mes amis, ils m'ont beaucoup, beaucoup soutenu et jamais pris en pitié. Même mes amis aujourd'hui font des blagues là, sur mon handicap, puis on en rit, tu sais, j'ai vraiment pas de tabou. Puis, je me suis relevé, c'est un mauvais jeu de mots, là, assez rapidement. Là, je me suis dit, bon, arrête de focusser sur ce que tu peux plus faire, focus sur ce que tu peux encore faire, puis la chance de la vie, c'est que je suis encore en vie, j'aurais pu mourir à l'accident, fait que je me suis considéré extrêmement chanceux, puis je me suis tourné les manches, puis je me suis dit, on fonce et je vais faire le plus que je peux avec ce que j'ai.
Mais quand même, vous avez mis l'objectif assez haut, parce que dans votre situation, devenir un entrepreneur gestionnaire dans le domaine immobilier, vous n'avez pas choisi le domaine le plus facile.
Non, surtout que j'ai commencé tout de suite à créer ma compagnie et l'intégrer complètement verticalement. C'est-à-dire, j'aurais pu acheter des immeubles, tout ça, mais non, j'ai parti de zéro, j'ai créé une compagnie de construction, une compagnie de gestion immobilière. Donc nous, on fait tout, le groupe GDI. On développe les projets, on les construit de A à Z, on est entrepreneur général full licence. On est les propriétaires et on en fait la gestion active. Fait que, j'avais sur le chantier, là, je roulais avec ma chaise sur le chantier de construction. Là, il y avait des clous, fait que je prenais des flats. Ça n'a pas été facile le départ, je vous dirais, mais aujourd'hui, 10 ans plus tard ou 13 ans plus tard, la compagnie a levé les voiles et jusqu'à 30 employés quand on est en plein chantier. Fait que, ouais.
Avant qu'on parle justement de la compagnie, qui a quand même une mission particulière, j'ai compris que ce qui vous a amené à ça, en tout cas un élément, c'est la construction de votre propre habitation après l'accident.
Oui, après l'accident, j'habitais un appartement un petit bout. Puis là, ben, j'avais besoin d'une maison, donc adaptée, parce que où j'habitais avec mon père dans sa, au moment de mon accident, c'était pas du tout accessible. Donc, je me suis construit ma propre maison que j'ai faite moi-même, que j'ai comme un peu géré le projet moi-même. C'est là que j'ai vraiment eu des aptitudes. Je trouve ça le fun. Je me suis dit, bon, après l'accident, je cherchais un peu qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que je peux apporter maintenant à la société. C'est comme mon rôle maintenant que je peux faire. Puis faire du 9 à 5 comme analyste financier, ça, j'en avais plus envie. Donc, la construction vraiment de ma maison m'a vraiment allumé. Puis, je me suis dit, bon, ben, je pourrais peut-être faire ça. Puis, j'ai commencé par ma maison, puis après ça, une autre et une autre. Après ça, un petit immeuble, un plus gros immeuble. Puis, les fils en aiguille, bon. J'avais des grandes ambitions quand même dès le départ. Puis, je m'étais dit que dans 10 ans, je voulais avoir construit des immeubles de grande hauteur, des gratte-ciels. Puis, ça m'a pris 13 ans finalement.
C'est quand même pas si pire, 3 ans de plus. On peut se le pardonner, comme on dit. Est-ce que vous aviez cette préoccupation sociale avant votre accident? Vous avez parlé d'une espèce de mission. Qu'est-ce que je peux apporter, moi, aujourd'hui? Est-ce que vous l'aviez? Est-ce que vous étiez conscient de cette...
Beaucoup moins. C'est sûr que j'étais plus le succès, l'argent, le statut, tout ça. Puis, bon, j'étais jeune. Quand j'ai quitté mon bac, j'avais... Quand j'ai eu l'accident, j'avais 26 ans. Puis du jour au lendemain, c'est un gros reality check. Puis ça te rend beaucoup, beaucoup plus humble, là, toute cette expérience-là. Ça m'a beaucoup ramené à terre. Puis c'est sûr qu'en étant en fauteuil roulant, j'étais beaucoup plus sensibilisé sur l'accessibilité. Quand on marche, on ne se rend pas compte des petits détails qui rendent la vie compliquée aux gens en fauteuil roulant. Juste un seuil de porte de 1 pouce, ça a l'air de rien pour nous, tu sais, quand tu marches, mais quand tu as un fauteuil roulant, tu dois l'enjamber tous les jours, c'est vraiment un irritant. Donc, dans mes immeubles, j'ai vraiment mis l'emphase là-dessus. Puis, maintenant, évidemment, mon équipe au bureau, ben, mon équipe de bureau et de chantier, c'est la plupart, c'est des amis. Puis, s'ils n'étaient pas au début, ils sont devenus. Fait qu'ils connaissent vraiment ma réalité. Fait que toute la compagnie est vraiment sensibilisée là-dessus. Puis, on met triple effort. Je pense qu'on serait pas mal, me tromperais pas à dire qu'on est les meilleurs au Québec dans la construction, dans l'accessibilité, parce que, évidemment, c'est ma réalité. Fait que tous nos immeubles sont 100% accessibles, que ce soit les entrées d'appartements ou espaces communs, la piscine, tout ça. Fait que c'est vraiment notre mission, là, de faire des... Puis c'est pas juste les personnes handicapées, c'est aussi pour les personnes qui sont plus âgées, qui vont pouvoir vieillir à domicile, qui n'auront pas à déménager quand leur situation physique va changer.
En lisant sur vous, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été publiées, vous avez fait plusieurs entrevues, vous insistez justement sur cette accessibilité universelle dont vous faites la promotion, mais aussi sur les besoins des locataires. Comment vous prenez en compte les besoins des locataires autres que ceux liés à l'accessibilité universelle?
Quand on a commencé, on a vraiment remarqué que au Québec, la mentalité... Et c'est encore le cas un peu, là. Les gestionnaires d'immeubles, ils gèrent des immeubles. Enfin, ils gèrent des blocs, excusez-moi. Moi, je gère des blocs. Puis, les locataires sont comme un peu un problème, là, une nuisance. Et puis, nous, dès le départ, on a pris le problème vraiment de façon différente. Pour nous, nos locataires, c'est la priorité. Puis, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne gère pas des immeubles, on gère des milieux de vie. L'immeuble en fait partie. Fait qu'on est vraiment centré sur le client, sa satisfaction. Fait qu'on a des petits détails qu'on a gagné dans nos immeubles, on a gagné des événements comme des barbecues. On organise en octobre, un Oktoberfest. Fait que tout est vraiment centré sur la satisfaction du client de A à Z. Tout ça, c'est une expérience qui fait d'habiter chez nous. Puis ça fait une grosse différence dans la mentalité de gestionnaire. Puis on essaie de dire qu'on veut être des super propriétaires. T'sais.
Bien, c'est très, très intéressant. Mon collègue Yvan Deslauriers et moi-même, on vous remercie d'avoir partagé ça avec nous ce matin.
Tout à fait, oui.
On doit s'arrêter ici, malheureusement, puis on vous souhaite bonne chance pour la continuation, parce que je sais que vous avez plusieurs projets sur la table, comme on dit. Donc, bonne chance à vous, Mathieu Lamarche, président fondateur du groupe GDI, qui est une compagnie de gestion et de développement immobilier que vous avez créée en 2010 et aussi tétraplégique.
Merci.
Bonjour Marcel.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va bien ce matin et vous?
Ah, tout à fait, tout à fait.
Oui. Absolument. Est-ce que vous savez quel temps il fait à Paris?
Je vous avoue que je n'ai pas regardé.
Ben, je ne voulais pas vous poser une colle en commençant, mais c'est parce que...
Je vais vous le trouver.
Pour aller au cimetière La Chaise où vous nous amenez et déambuler dans ces magnifiques sentiers, il faut qu'il fasse un peu beau.
C'est préférable, effectivement, quand il fait beau. Quoique peut-être quand il pleut, ça ajoute une certaine ambiance. Je sais pas.
Oui.
Ce n'est pas vraiment des goûts personnels.
Voilà.
Ceci dit, Paris, où il fait une température que j'ignore, attire un
c'est
nombre
nuageux, il fait 13.
Ah, ben moi, je trouve que c'est parfait pour aller se promener au cimetière,
personnellement. Ah oui, on est d'accord, on est d'accord.
Paris attire un nombre spectaculaire de touristes chaque année. C'est probablement normal qu'on y retrouve le cimetière le plus visité sur Terre. Il y a 3,5 millions de personnes qui se rendent chaque année au cimetière du Père-Lachaise dans le 20e arrondissement. C'est un cimetière où on retrouve une architecture funéraire tout à fait remarquable et où reposent beaucoup de gens célèbres. À la fin du 18e siècle, Paris se retrouve dans la même situation que bien d'autres grandes villes. On enterre nos morts très près des foyers de population, ce qui n'était vraiment pas idéal, surtout alors que les villes étaient frappées par de fréquentes épidémies, le choléra, le typhus, etc. On va notamment fermer un cimetière qui s'appelait le cimetière des Saints Innocents, où on enterrait depuis des siècles. Au moment de son ouverture, il se trouvait en campagne, mais avait été rattrapé par l'urbanisation et se trouvait maintenant en plein cœur de Paris. On va donc créer des cimetières en périphérie de la ville. Et on a eu le même problème, nous, ici à Montréal. En 1799, on a inauguré le cimetière Saint-Antoine, qui se trouve sur le site de l'actuelle Place du Canada et du Square Dorchester. À ce moment-là, c'était un cimetière en campagne, parce qu'on ne voulait plus enterrer nos morts en pleine ville. Mais au bout de quelques décennies, le nouveau cimetière était rendu en ville lui aussi, et c'est à ce moment-là qu'on a choisi d'utiliser le Mont-Royal comme nécropole. Mais j'en reviens à Paris. On crée 4 grands cimetières en banlieue, un au nord, un au sud, un à l'ouest, et un quatrième qu'on va baptiser au départ de manière très banale, le cimetière de l'Est. On l'installe sur une colline nommée le Mont-Louis, qui pendant longtemps avait été propriété des Jésuites, qui l'utilisaient comme lieu de villégiature, de repos pour les membres de la communauté. Et un des religieux qui va passer beaucoup de temps sur la propriété des Jésuites au Mont-Louis se nommait François d'Aix de La Chaise, mieux connu sous le nom de Père Lachaise. La Chaise, qui écrivait son nom d'ailleurs, c'est H-A-I-Z-E au départ, est né dans le département de la Loire en 1624, et il doit sa notoriété au fait qu'il a été pendant 34 ans le confesseur du roi de France, Louis XIV. Évidemment, quand vous êtes un monarque de droit divin, là, vous n'allez pas à la confesse auprès du vicaire de la paroisse le dimanche après la messe. Vous avez un religieux qui vous est attitré, qui sert de guide spirituel, de conseiller. On présume qu'un confesseur qui accompagne un monarque pendant autant d'années peut avoir une grande influence sur le roi qu'il confesse. Le nom du Père Lachaise va donc rester associé au Mont-Louis, même s'il était décédé depuis plusieurs décennies au moment de l'ouverture du cimetière, et le cimetière de l'Est va prendre son nom. La première personne inhumée au Père Lachaise, c'est une petite fille de 5 ans, Adélaïde Paillard de Villeneuve, qui est enterrée en mai 1804, ça fera 119 ans la semaine prochaine, et elle demeurera la seule résidente des lieux pendant près d'un mois, parce qu'au départ, les Parisiens et les Parisiennes ne veulent rien savoir du cimetière de l'Est, c'était trop loin, c'était mal situé. Comme il n'y a pas d'engouement organique pour la nécropole, on va lui donner un petit coup de pouce. Le préfet de Paris va organiser le transfert de dépouilles de personnalités célèbres, notamment Molière et Jean de La Fontaine, au Père Lachaise. Et suite à ça, le cimetière va rapidement gagner en popularité. On va procéder à une série d'agrandissements dans la première moitié du 19e siècle, passant de 17 hectares, la superficie initiale, à 43 hectares. Ça, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près la moitié de la superficie du parc Maisonneuve à Montréal. Donc, c'est grand, le Père Lachaise, mais on ne peut pas dire que c'est immense non plus. Le cimetière a été vu dans de nombreux films, des séries télé, ça a été mentionné dans une grande quantité de livres. Et à ce chapitre-là, Honoré de Balzac a été un précurseur. Au milieu des années 1830, il fait enterrer son personnage du Père Goriot dans le roman du même nom, au Père Lachaise, alors que le cimetière n'était vraiment pas un incontournable, c'était encore tout nouveau à ce moment-là. De même, le Jean Valjean des Misérables de Victor Hugo trouve aussi son dernier repos au Père Lachaise. Balzac a été rejoindre son personnage après sa mort, mais pas Hugo, qui est au Panthéon. Le cimetière a été le site de deux grandes premières. En 1857, on réserve une portion du site aux défunts qui pratiquaient l'islam, notamment les soldats provenant des colonies, d'Afrique du Nord tout particulièrement, qui étaient morts au service de la mère patrie. Il s'agissait du premier cimetière musulman de France. Et 30 ans plus tard, le gouvernement français va autoriser la crémation des défunts. Avant ça, on ne considérait pas que c'était une manière acceptable de traiter le corps d'une personne décédée. Il arrivait qu'on brûle un condamné après l'avoir mis à mort. C'était une forme d'outrage à son cadavre. Et c'est au Père Lachaise qu'on a construit le premier crématorium de France et qu'on a procédé à la première crémation en 1889. Si vous déambulez dans le cimetière, vous allez voir un grand nombre de mémoriaux de toutes sortes, qui rappelle le souvenir des morts lors des deux guerres mondiales, les victimes de la Shoah notamment, les personnes décédées lors de tragédies aériennes ou d'incendies majeurs. On a un monument au personnel des hôpitaux de Paris décédés en devoir, donc toutes ces infirmières, les médecins, les membres du personnel de soutien qui sont allés au front, notamment lors des épidémies qui ont frappé la ville et ont attrapé la maladie qu'ils voulaient soigner. On a un monument aussi dédié aux employés municipaux morts en service. Ça arrive beaucoup moins fréquemment de nos jours, heureusement, mais il y a des dizaines d'égoutiers, donc les gens qui travaillaient à l'entretien des égouts, de cantonniers, ceux qui veillaient à l'entretien des routes et des chemins de fer, qui sont morts au travail. C'est des métiers où on se préoccupait absolument pas de la santé et la sécurité des travailleurs. Au moins, ils ont un monument qui rappelle leur mémoire. On a aussi des mémoriaux aux victimes de la guerre franco-prussienne de 1870 et de la Commune de Paris de 1871. Ça, pour vous résumer très, très succinctement, la France a été gouvernée par un empereur dans les années 1850 et 1860, mais l'Empire s'effondre suite à une défaite militaire face à la Prusse, qui deviendra l'Allemagne, en 1870, et le pays se dote d'un nouveau gouvernement conservateur, pour ne pas dire réactionnaire. Il y a de l'agitation antigouvernementale dans un certain nombre de grandes villes, mais tout spécialement à Paris, où un mouvement insurrectionnel de gauche va s'organiser, qu'on appellera la Commune de Paris. La Commune sera violemment réprimée par l'armée française qui s'est rangée du côté du gouvernement, avec l'assistance de l'envahisseur allemand, aussi étrange que ça puisse paraître. Des milliers de communards sont tués, déportés, emprisonnés. Et à la toute fin de ce qu'on a appelé la semaine sanglante, il y a 147 soldats de la Commune, on les appelait les fédérés, qui ont été alignés le long d'une portion du mur qui entourait le cimetière du Père Lachaise et ont été fusillés avant d'être jetés dans des fosses communes avec nombre de leurs camarades. On retrouve encore aujourd'hui le mur des fédérés au cimetière, même si ce n'est plus le mur de l'époque. Mais je ne vais pas terminer une chronique sur le cimetière du Père Lachaise sans vous dresser une liste de quelques-uns des résidents, résidentes éminents des lieux. On retrouve vraiment de tout.
Dont des grandes, grandes vedettes, hein?
Oui, tout à fait, tout à fait. Des écrivains et écrivaines, je vous ai nommé déjà La Fontaine et Molière. Il y a aussi Alphonse Daudet, Colette, Marcel Proust, Guillaume Apollinaire, des peintres comme Géricault, Marie-Laurent Saint, Eugène Delacroix, des musiciens, compositeurs, Frédéric Chopin, Bizet, qui a fait Carmen, Édith Piaf, c'est une incontournable, évidemment, très visitée dans le cimetière. Il y a des hommes d'État, des scientifiques, il y a des personnalités plus contemporaines aussi, Simone Signoret, Yves Montand, Georges Moustaki. Il y a des personnalités étrangères. Le poète irlandais Oscar Wilde y est enterré. Ou encore Jim Morrison, chanteur du groupe des Doors, qui est décédé à Paris à 27 ans en 1971, qui y est enterré. C'est une des tombes les plus visitées de tout le cimetière. C'est là, évidemment, un tout petit aperçu. Ce serait une tâche colossale que de visiter les tombes de toutes les personnes connues qui sont enterrées au Père-Lachaise. Par contre, Francine Yvan, je vous donne un petit conseil à tous ceux et celles qui voudraient s'y rendre. Il y a une personne qu'il ne faut pas chercher au cimetière du Père-Lachaise, c'est François Dex de Lachaise lui-même. Il a été enterré et repose aujourd'hui dans la crypte d'une église jésuite de la capitale. Le Père-Lachaise ne repose donc pas au Père-Lachaise.
Ah bon? Il l'aurait mérité quand même.
On aurait pu penser qu'ils auraient voulu le déplacer là, mais il semblerait que ça ne s'est pas... Mais enfin, j'allais dire, il semblerait que ça ne s'est pas fait. Non, je peux vous confirmer que ça ne s'est pas fait.
Ça ne s'est pas fait encore. Peut-être qu'après votre chronique...
Les gens du Père-Lachaise nous écoutent, on les salue. On sait qu'ils sont des habitués de l'émission.
Exactement, Marcel, vous avez tout compris.
Voilà.
Pour votre segment seulement. Pour votre segment seulement.
Ah non, je suis sûr qu'ils sont là du début à la fin.
OK, ça va. Merci beaucoup de cet encouragement, Marcel, et on se retrouve à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
En par actualité, c'est vous, Francine, qui m'avez aiguillé sur ce sujet-là. C'est un documentaire qui va être présenté sur la chaîne de Radio-Canada demain soir, 22h30.
Ouais.
Une heure superbe pour...
Autre code d'écoute à ces heures-là.
Oui. Oui. Sauf que c'est aussi disponible sur tout.tv, pas extra. Tout.tv pour la masse.
Gratuit.
Gratuitement. Alors, et il y a eu une entrevue aussi chez Pénélope, mais comme j'écoute Canal M le matin... j'ai pas écouté Pénélope, donc je suis allé voir sur audio. Je suis allé écouter plutôt sur audio. Alors, c'est le nom du documentaire, c'est Aimer et différence. J'avais aimé autrement dans la tête. Aimer et différence. Et ça touche le sujet de l'accès à l'amour pour des personnes qui vivent avec un handicap physique ou intellectuel. On suit trois personnes qui sont délicieuses. Ils sont très généreuses aussi de leur situation. On parle de Marie-Lie. Marie-Lie, elle vit avec une déficience intellectuelle légère. Et une chance qu'elle le dit au début, parce que quand on vient à la connaître et tout ça, on oublie complètement qu'elle vit avec cette particularité-là. Elle va rencontrer quelqu'un qu'on va voir pendant le documentaire. Et moi, ce qui m'a touché particulièrement, c'est la réaction des parents de Marie-Lie par rapport à cette nouvelle situation-là. Vous allez voir, ça fait un petit pincement au cœur tellement c'est beau. Ensuite, il y a Élisane. Élisane, elle souffre de paralysie cérébrale. Mais elle a un doctorat en sciences politiques, je paraphrase, là, je ne suis pas sûr de mon affaire, mais je pense que oui. Elle a une charge de cours à l'Université du Québec à Montréal, l'Université du Québec à Montréal, effectivement. Et elle a son chien guide avec elle pour l'aider dans ses déplacements parce qu'elle a la difficulté à marcher. C'est une personne qui se présente de façon tout à fait facile. Elle a une facilité avec les mots, justement. C'est vraiment un personnage vraiment intéressant. Et finalement, François. François vit avec la sclérose en plaques et il a eu des amours difficiles. Il y a des gens dans sa vie qui l'ont laissé parce que sa maladie a continué à progresser, l'amenant à être dans une chaise roulante. Et une de ses amoureuses, entre autres, lui a dit « Moi, je te laisse pas, François, je laisse la sclérose en plaques. » Alors, on voit un peu le dilemme que ces gens-là ont à vivre. Et lui, il a conçu une application pour permettre aux gens qui vivent avec le handicap de pouvoir trouver peut-être quelqu'un, une âme sœur. Ça s'appelle NoLu pour « No one left unloved », donc « Personne laissé sans amour ». Il y a d'autres choses dans sa vie, mais ça, je vous laisse le regarder et l'écouter. Donc, c'est sur tout.tv en tout temps sur la chaîne Radio-Canada à 10h30 demain soir. Et vous pouvez écouter une interview audio sur audio de cette semaine. C'est à ne pas manquer, ça va vous toucher. On prend une petite pause et on revient avec la dernière demi-heure de notre émission.
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Et là, on va parler de ChatGPT sans le nommer, c'est ça? Ou...
Ben, oui et non, parce qu'on dit toujours oui. ChatGPT, mais c'est un peu comme ça va devenir un peu comme le frigidaire, là, cette affaire-là. Parce
ou les
que,
Kleenex,
oui. Oui, ou les Kleenex, parce que du côté de Google, du côté de Microsoft et probablement d'autres, on développe des applications qui sont très similaires. Mais c'est ChatGPT comme c'est celui qui nous a réveillés.
Oui, oui, oui.
J'utiliserais cette expression. Ben, c'est celui qu'on utilise.
C'est l'esprit de l'intelligence artificielle en arrière de tout ça.
Voilà. Alors, sur RTV, le site de RTV, mais en fait, c'est un blog de Midjourney sur l'art intelligent. Il y avait un article extrêmement intéressant et je trouve qu'il y a différents points de vue qui sont exprimés dans différents secteurs d'activité. Puis, il y a quelque chose d'intéressant à les écouter puisque c'est ni une menace, puis c'est ni quelque chose qu'on devrait louanger, favoriser à tous égards. Il reste que c'est tout ça. Sans être ni, c'est tout ça. Et dans l'art visuel et intelligence, et l'intelligence artificielle, je m'excuse, les robots font-ils de l'art? On pose la question, c'est un papier, le blog de Claire Marine B.A., qui a été reproduit, comme je l'ai mentionné, sur RTV. En fait, on montre que c'est pas d'hier qu'on utilise l'intelligence artificielle ou encore les prémices de l'intelligence artificielle dans le domaine artistique. Et on est parti du propos qu'il y a quelques jours, il y a un artiste allemand qui s'appelle Boris Eldaxen qui a remporté un prestigieux prix pour une photographie. Et c'est vraiment un artiste, sauf qu'il l'a créé avec l'intelligence artificielle. Alors, il a décidé de refuser le prix parce qu'il trouvait que la nature du prix, tel qu'il devait être, ça ne correspondait plus parce que lui... Il a utilisé beaucoup cette technologie dans l'art visuel et il dit ben c'est facile quand on utilise ça de tromper d'une certaine manière et il souhaitait pas que ça soit louangé d'une certaine façon cette tromperie.
Est-ce que votre article décrit de quelle façon l'intelligence artificielle a été impliquée dans ce
dans cette photographie? De quelle façon? C'est toujours la même chose. C'est qu'on travaille à partir de données qui sont accumulées, comme dans ChatGPT, comme j'oublie son nom, là, celui que je vous avais référé il y a quelques semaines à un photographe qui est un vrai photographe professionnel et qui ne travaille qu'avec ça sur... voyons, j'oublie son nom, là, je m'excuse, vous savez comment j'ai pas la mémoire des noms, mais c'était sur Instagram, je vous avais dit, allez voir ça, il fait des choses merveilleuses. Mais c'est à partir d'images de synthèse, c'est toujours la même chose, c'est comme les textes, c'est comme on fouille. Bon, je vais vous l'expliquer de manière vulgarisée parce que je ne l'ai jamais fait moi-même et je ne sais pas exactement quelles sont toutes les étapes, mais le principe est toujours le même. C'est qu'on a une grande banque de données, je dirais ça comme ça,
oui.
Dans laquelle on peut, une bibliothèque dans laquelle on va fouiller. Et disons que c'est pas nous qui faisons la recherche comme telle. Nous, on dicte ce que nous allons faire. Alors, c'est la même chose au visuel, c'est la même chose à l'écrit, etc. Donc, ce qu'on dit, c'est que pour savoir jusqu'à quel point c'était important ou pas, cette utilisation des nouvelles technologies dans l'art visuel. On a rencontré, pour les besoins du blog, Sofiane Audry, qui enseigne les médias interactifs à l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM, qui a écrit un ouvrage sur le sujet et qui s'est penchée sur la chose. Et on le dit là-dedans qu'on peut remonter jusqu'aux années 1940. C'est quand même... C'est quand même pas d'hier.
C'est plus âgé qu'on penserait.
Exactement. L'apparition des premiers ordinateurs. Et il y a eu des œuvres à ce moment-là cybernétiques ou de l'art cinétique. C'est peut-être des termes que vous avez déjà entendus.
Oui.
Alors, il y a des artistes qui ont animé des sculptures en leur donnant des capteurs pour qu'elles répondent de ces sculptures à leur environnement. Dans les années 80, les capacités de calcul vont augmenter et les algorithmes, à ce moment-là, vont s'inspirer des théories de l'évolution. Et dans ce contexte-là, il y a des artistes comme William Lattman, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, moi ça ne me disait rien, qui a imaginé des structures qui lui permettraient de générer toutes sortes de nouvelles formes par ordinateur. Alors, quand on y pense, là, aujourd'hui, dans le dessin d'architecture et comment on aménage des choses à partir d'images qu'on a finalement amalgamées dans l'ordinateur, ben on voit qu'en 1980, il y avait des artistes qui le faisaient. Au moment où on se parle, l'industrialisation rapide des formes d'intelligence artificielle, ben là, évidemment, ça va susciter des questions éthiques parce que se pose le fait que ça nous permet de créer des deepfakes, entre autres. Rappelons-nous qu'on va chercher des images de gens qui ont l'air d'être eux-mêmes, mais qui ne sont pas eux-mêmes, dans le sens que visuellement, on pense que c'est eux. La voix nous dit que c'est eux, mais finalement, c'est du fake.
Mm-hmm.
Comme on dit en bon français. Et aussi, ça pose des questions d'éthique et c'est aussi des questions sur les droits d'auteur. Alors, tout ça mis ensemble, on peut dire que les artistes ont toujours été proches des technologies, comme la photographie, quand on y pense.
Bien
quand,
sûr,
hein, oui. Fin 20e, voyons, là, c'est devenu un art... Qui était très, très important, et même ça a dérangé, ça a eu un effet extrêmement important sur toute la peinture. Pensons aux impressionnistes qui, justement, ont été propulsés vers des formes de tâches pour créer des formes, justement, parce qu'il fallait qu'ils se distinguent de cet hyper-réalisme qui était maintenant rendu par des photographies. Et ben, ce qu'on dit dans cet article, qui est un long article, c'est que c'est un outil, l'intelligence artificielle, et ça va probablement amener une créativité autre, ça va probablement nous propulser ailleurs, mais ça n'aura pas pour conséquence d'abolir finalement l'art tel qu'on le connaît. Je vous ai parlé il y a quelques semaines de l'événement Plural à Montréal.
Oui.
Et on a encore des artistes qu'on juge prometteurs et qui font encore des dessins. Ils font encore des dessins même au fusain avec des pastels, des choses comme ça. Et on juge que c'est de l'art contemporain. Pourquoi? Parce qu'il y a le traitement, parce qu'il y a la démarche, parce qu'il y a la thématique, parce qu'il ne faut jamais oublier, au-delà de l'aspect esthétique, c'est que la thématique est extrêmement importante dans le parcours de l'artiste. Et il y a tellement de thématiques que je dirais contemporaines qu'on peut exprimer en art et développer et illustrer en art que ça ne semble pas, cette intelligence artificielle, être aussi menaçant qu'on pourrait le croire, du moins dans le domaine des arts visuels et autres formes d'art.
Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec l'avènement de l'ordinateur? Il y a quelques années, quelques dizaines d'années, l'ordinateur est apparu pouvant faire de nombreuses tâches beaucoup plus rapidement qu'on pouvait le faire auparavant. Et on a probablement dû se poser ce genre de questions-là à cette époque-là. Et là, l'intelligence artificielle arrive, très articulée, nous permet d'aller dans des endroits où on ne pensait pas pouvoir aller. C'est peut-être encore une remise en question, là.
C'est un parallèle et une remise en question, et on ne cesse d'en avoir depuis plusieurs années, depuis en fait la Deuxième Guerre mondiale, avec l'arrivée d'Internet et tout ça. On est à la radio ici. N'a-t-on pas prévu la mort de la radio?
Souvent, oui.
Souvent. N'a-t-on pas prévu récemment encore la mort de la télévision? Là, la télévision est en train de se réinventer.
Oui.
Alors, c'est, ça nous propulse vers autre chose.
Tout à fait.
La chanson Mandarine de Carla Chanel, et c'est une autre artiste qui sera au Festival Santa Teresa
à Sainte-Thérèse.
Oui.
Merci beaucoup, Mathieu. Et normalement, à ce moment-ci de l'émission, Francine, on parle avec des gens de différents organismes. On avait une table de quatre et on leur parlait une fois par mois pour savoir qu'est-ce qui se passait dans leur organisme, dans les semaines à suivre. Et on a élargi notre tablé. Et ça commence aujourd'hui avec Céline Ayeri, qui est intervenante en autisme et en intégration professionnelle et avec qui on a déjà parlé il y a deux semaines dans le cadre de la chronique « Au-delà des limites », qui va nous parler de ce qui se passe du côté de Autisme sans limites. Bonjour, Céline.
Bonjour.
Comment allez-vous ce matin?
Très bien, merci beaucoup.
Alors, qu'est-ce qui arrive du côté de Autisme sans limite?
Bien, en fin de compte tenu que c'était la première fois qu'on se parlait vraiment de l'offre, finalement, d'Autisme sans limite, j'ai pensé vous parler aujourd'hui un petit peu de la façon dont on fonctionnait, notre mission, notre façon de penser à l'organisme pour un petit peu camper les prochaines discussions qu'on aura, où on parlera peut-être un peu plus des activités et des événements qu'on va présenter et qui suivront finalement les présentations.
Oui, oui, tout à fait. Donc, établissons les bases.
Oui, exactement. Alors, je voulais en fin de compte rappeler que nous, on est vraiment un organisme spécialisé auprès de jeunes adultes autistes de 18-35 ans, de haut niveau de fonctionnement cognitif et social. Alors, les jeunes sont admis à notre organisme sur cette base-là. parce qu'on a une offre de services. Et voilà, donc pour nous, les jeunes, on veut vraiment qu'ils soient rendus dans leur développement à ce niveau-là, parce que ça demande quand même des habiletés sociales pour faire partie de nos activités. Alors, et comme ça, après, on les accueille, puis on peut vraiment leur offrir toute la proposition d'Autisme sans limite.
De quelle façon ils vous sont référés? Est-ce qu'ils vont directement vers votre organisme ou c'est par des intermédiaires?
Non, en fin de compte, nous, si vous vous présentez sur le site d'Autisme sans limite, vous pouvez compléter une demande d'admission et on demande des références parce qu'on parle toujours aussi aux intervenants qui accompagnent déjà le jeune, qui le connaissent beaucoup mieux que nous. Et ce qu'on veut vraiment valider, c'est est-ce que finalement le jeune, dans son parcours, est rendu à un niveau où il va pouvoir vraiment bénéficier de nos services. Alors, c'est vraiment notre souci premier là, avant d'intégrer un jeune.
Et vous avez combien de jeunes qui font partie de vos activités à l'heure où on se parle?
Bien, à l'heure où on se parle, on a autour de 110 jeunes. Donc, en fin de compte, on devient vraiment de plus en plus connu. Il y a peu de services pour cette tranche de jeunes adultes autistes-là qui fonctionnent comme somme toute bien dans la société, mais quand même qui ont certains enjeux qui persistent puis des fois impactent hein, leur fonctionnement au quotidien ou leur bien-être à tout le moins. Donc voilà, donc là, nous, on est rendu à 110, mais j'avoue là, qu'on a des demandes d'admission là, grandissantes.
Et est-ce que vous avez des limites? Est-ce que vous pouvez accueillir beaucoup plus de jeunes ou ça dépend de vos ressources?
Non, tout à fait. C'est sûr qu'on ajuste vraiment nos services. Notre idée, c'est vraiment, on a la possibilité d'accompagner beaucoup plus de jeunes, puis on va prendre les mesures pour maintenir finalement notre façon de fonctionner. Vous allez voir, je vais vous en parler rapidement, là, mais on veut vraiment adapter nos services aux jeunes, mais dans ce qu'ils sont, dans leur façon unique d'être tous et chacun. Donc, on s'ajuste vraiment à chacun des jeunes. On veut préserver ça. Mais on a vraiment, puis il y a vraiment beaucoup d'approches et d'intérêt, là, je dirais, au niveau de la société actuellement pour notre projet d'organisme. Et on a la capacité d'intégrer de plus en plus de jeunes, tout à fait.
Et donnez-nous quelques exemples d'activités où les jeunes sont impliqués dans votre organisme.
Bien, je voudrais peut-être, si vous êtes d'accord, moi, vous présenter un peu notre mode de pensée.
Allons-y.
Puis après, je pourrais vous présenter un peu nos activités. En fin de compte, nous, notre mode de pensée, c'est vraiment dire on ne veut pas offrir de services en silo. Le jeune n'est pas une composante. Il a toutes sortes de besoins et on doit finalement vraiment accompagner le jeune dans tout ce qu'il est, dans toutes ses forces et tous ces défis. Alors, c'est vraiment le mandat qu'on a. Donc, pour nous, c'est de dire on veut prendre le jeune de façon individuelle dans son ensemble et c'est ça qui est pris en compte. Donc, pour nous, principalement, on travaille à deux niveaux, c'est-à-dire de vraiment tenter de répondre aux besoins des jeunes qui ont accès à nos services. Chaque jeune est assigné à une intervenante et qui l'accompagne et le suit, le contact de façon régulière. Et on a une offre de services variée, d'ateliers. Je vais pouvoir y revenir rapidement par la suite. Et il peut finalement, c'est flexible, donc il peut aller aux ateliers, aux heures qui lui conviennent, selon l'offre. Donc, il y a toujours des horaires qui sont disponibles et selon ses intérêts. Alors, et selon son horaire à lui aussi. Donc, on a beaucoup de jeunes qui sont aux études et qui, finalement, viennent plus le soir ou dans leur trou d'horaire qui sont en journée. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, c'est vraiment un format très, très flexible qu'on offre aux jeunes. Et nous, notre idée, c'est de dire on mobilise des partenaires, donc des gens, des entreprises, des organismes qui souhaitent vraiment s'impliquer auprès de nos jeunes. Et nous, on l'accompagne, ces organismes, ces entreprises-là, aussi. C'est-à-dire qu'il y a toujours une intervenante qui participe, qui est présente lorsqu'il y a des activités qui s'offrent ailleurs, pour tant aider et soutenir le jeune que aider et soutenir les partenaires qui sont là. On offre aussi des formations de sensibilisation à l'autisme qui sont de plus en plus courues, là. Alors, en gros, là, c'est de dire, nous, ce qu'on veut, c'est offrir un environnement dans lequel le jeune va pouvoir s'épanouir et de accompagner le plus de partenaires dans la société possible aussi pour les familiariser à la cause autiste et à la personne autiste pour que tout le monde soit de plus en plus équipé pour communiquer de façon adéquate ensemble.
Fantastique. Alors, le temps a filé de façon importante. La glace est brisée. Donc, on se reparle dans 6 semaines pour voir l'évolution de ces différents projets. J'avais le plaisir de parler avec Mme Céline Ayuri, qui est intervenante en autisme et en intégration professionnelle chez Autisme sans limite. Au plaisir de se reparler bientôt, Mme Ayuri.
Au grand plaisir de vous retrouver. Au revoir.
Au revoir. Et Francine, qu'est-ce qui vous intéresse dans les prochains jours?
Oh là là!
À ce point-là?
Dans le sens que...
Vous allez
que...
faire de la, non, mais... de la jardinerie, oui, chez vous toute la fin de semaine?
Mathieu Tessier vient de nous demander si on était prêt, notre metteur en onde, et je me dis, est-ce qu'on est prêt? Je ne sais pas. Il y a tellement de choses, Yvan, que c'est difficile de faire des choix.
Allons-y.
Bon, alors j'y vais. D'abord, la semaine Japon, qui se poursuit ce week-end. La semaine Japon, c'est une troisième présentation, c'est la troisième fois que ça se tient. C'est en fait, on vous invite à découvrir le Japon, premièrement ses restaurants. Alors, vous allez sur le site Semaine Japon du Facebook, sur Facebook, et vous allez trouver tous ceux qui participent et qui ont des saveurs japonaises à vous offrir. Il y a aussi ce week-end le célèbre rassemblement de chiens Shiba et Akita, qui sont des chiens qui sont... ces deux races de chiens japonais bien appréciées par les habitants du Japon. Ce rassemblement-là, comme il fait beau, il a lieu dans le parc à chiens du parc Laurier. Et l'année passée, là, je ne me rappelle plus combien il y avait de centaines, je pense plus de 150 chiens qui étaient là. Alors l'objectif, c'est vraiment de réunir ces chiens, de montrer qu'il faut les aimer, puis qu'il y ait un bon lien avec les maîtres, entre chiens et maîtres, quoi. Je continue.
C'est mieux qu'entre chiens et loups, dans ce cas-là.
Entre chiens et loups. Je continue dans un tout autre ordre d'idées. C'est le Festival de l'Histoire de Montréal qui se termine ce week-end, donc se termine le 14. C'est présenté par les musées de Montréal. Si vous voulez voir la programmation, vous pouvez aller sur Festival Histoire, alors dans un seul mot, .ca. Bon, il y a toutes sortes de choses et vous pouvez, entre autres, participer à des expositions, des visites sur des quartiers de Montréal. Cette semaine, entre autres, ce week-end, entre autres, il y a l'historique du quartier Notre-Dame-de-Grâce. Il y a une exposition sur Côte-des-Neiges et ce ne sont que quelques-unes des activités, je m'excuse. Et au Complexe des Jardins aussi, il y a l'histoire... de toutes sortes de toutes liées à Montréal, de toutes sortes d'événements importants liés à Montréal. Et enfin, je vais m'arrêter là-dessus.
Non, allez-y, allez-y.
Fonderie Darling, je vous invite pour ce week-end parce que ça se termine le 14 mai. Je vous parlais de tantôt d'art et de comment on peut évoluer, comment les artistes peuvent évoluer, oui. Malgré ce qui pourrait être perçu comme une menace de cette intelligence artificielle. Alors, vous avez deux beaux exemples dont le point de départ, c'est la nature. Dans le cas d'Amélie Laurence Fortin, le point de départ, c'est une expédition de kayak qu'elle a faite en mer, 3000 kilomètres, de l'Alaska à Vancouver.
Quand même!
Et à la Fonderie Darling, elle a créé une œuvre in situ, qui est une sculpture cinétique géante. Il faut regarder ça. En arrivant, je vous conseille, parce que c'est pas facile d'accès à la Fonderie Darling,
c'est ouf.
Je vous conseille, j'étais pour le donner à la fin, vous m'avez devancé, okay. 745 rue Ottawa, c'est dans Griffintown.
Ouais.
En fait, je pense que non, c'est pas tout à fait juste, je pense que c'est dans le bout qui est encore dans le Vieux-Montréal, entre Vieux-Montréal et Griffintown. On a appelé ça la cité du... multimédia ou quelque ça.
À une époque.
À l'époque, oui, de Bernard Landry, mais je ne sais pas si ça continue à être nommé de cette façon. Alors, je vous conseille donc d'aller voir la vidéo en rentrant qui vous explique tout et après ça, de vous arrêter et de vous regarder parce qu'il faut regarder bouger la sculpture et pas juste une minute. Donc, prenons le temps, arrêtons-nous. Et l'autre artiste qui est aussi en exposition à la Fonderie Darling, c'est Sandra Volny, qui, à partir de fossiles, a créé des fossiles sonores. Donc, on pense à Basquiat, qui peignait les vibrations, qui peignait la musique, qui peignait le son. Alors, Sandra Volny, elle reproduit la vibration de la terre, des sols, etc., dans de magnifiques images. Et voilà, je m'arrête ici pour vous laisser un peu de temps pour que vous puissiez parler de vos activités.
Oui, de mon côté, je vous invite à pratiquer du plug-a-loop.
Oh, plug-a-loop!
Du plug-a-loop au parc La Fontaine. Du plug à quoi? Le mot plug-a est un nouveau verbe inventé il y a peu de temps, c'est pas dans le dictionnaire, Robert, il y a peu de temps en Suède. C'est la combinaison de pluck up, cueillir, ramasser, et yoga, qui veut dire, évidemment, courir. Donc, c'est une belle activité qui est organisée samedi matin, de 9h à midi, au Parc La Fontaine, où on pourra courir, faire du vélo, jusque là ça va, ou même tout simplement marcher pour ramasser les déchets qu'on voit sur le chemin.
Ah, oh, que c'est intéressant, ça!
Oui, je sais. On pourra ainsi embellir un des plus beaux parcs de la ville et faire du bien à l'environnement et à notre petit corps. Donc, c'est au Parc La Fontaine, entre le croisement de la rue Rachel et de l'avenue du Parc La Fontaine. C'est demain. Non, mon Dieu, samedi 6 mai, c'était la semaine dernière.
Oh non, c'est trop tard.
C'est trop tard, mais on peut quand même,
On peut continuer à ramasser des...
Oui,
ah, bon.
Tout à fait, tout à fait. Je suis navré.
C'est le 12 mai aujourd'hui.
Oui, oui.
Et
oui.
De l'an 2023.
Sur la Terre.
Ben, pour nous, en tout cas, les communs des mortels.
Parce que je remarque que l'autre activité aussi était la semaine dernière. Je suis tout à fait triste. Mais une activité qui va avoir lieu cette semaine, qui m'implique directement, ça commence lundi. Je suis un des animateurs de l'activité cycliste averti. Donc, je vais être à une école lundi matin. Et on va aller faire un petit parcours de 5 km. Avec des enfants, on va être quelques animateurs, pour leur montrer comment rouler dans une rue, comment tourner à gauche, comment tourner à droite, c'est quoi les signaux.
Ah, c'est bien! J'espère à quoi faire attention. Que vous allez en faire un fait saillant pour la semaine prochaine.
C'est fort probable. Et là, je suis sûr de la date, par exemple.
Là, on est déjà rendu à se parler de la semaine prochaine,
oui.
Puisque notre émission se termine. Merci, auditeurs et auditrices. Ce fut encore un très beau moment pour nous, en tout cas, de partager ça avec vous. Alors, merci à Mathieu Tessier, c'est sûr, à la mise en onde. Et merci à vous, Yvan.
Et merci, Francine, pour cet avant-midi. On est toujours heureux le vendredi avant-midi.
Ah, le bonheur.
Le bonheur. Alors, on vous invite, chers auditoires, vendredi prochain, 9h30, au Canal M, à l'émission Au quotidien, 5e édition.